Bonjour Stéphane Olivier Bisson.
Bonjour.
Vous allez être prochainement à l'affiche du théâtre Paul-Éluard de Choisy-le-Roi dans une pièce de Jean Genet, 4 heures à Châtillat. Alors rappelons brièvement les événements qui ont présidé au massacre de Sabra et Châtillat afin de préciser un peu le contexte de votre pièce. Sabra et Châtillat étaient en 1982 deux camps de réfugiés palestiniens de Beyrouth-Ouest. Un massacre a été perpétré du 16 au 18 septembre 1982 par des phalangistes libanais chrétiens sur ordre de leur chef Elie Obeika, afin de venger l'assassinat du président libanais Béchir Gemayel, commis deux jours avant par un chrétien pro-syrien, Habib Tanius Chartouni. Des troupes mixtes musulmanes et chrétiennes commandées par le général Saad Haddad auraient pris part à ce massacre. Ces camps étaient encerclés par l'armée israélienne qui y envoya les phalangistes afin d'en extraire 2000 combattants palestiniens présumés tout en les mettant en garde de ne pas s'attaquer à la population civile. Des tirs nourris ayant été tirés en provenance de ces camps lors de l'invasion de Beyrouth-Ouest par l'armée israélienne. Le nombre de victimes varie suivant les sources entre 700 et 3500. À la suite de l'émotion provoquée aussi bien au niveau international qu'israélien, une commission d'enquête, la commission Kahan, fut chargée par le gouvernement israélien d'enquêter sur le massacre. Elle conclut à la responsabilité directe des phalangistes comme seul auteur des tueries et à la responsabilité indirecte des dirigeants de l'armée israélienne, notamment pour la faute de jugement consistant à avoir laissé entrer les phalangistes dans les camps et pour être restés inactifs devant le carnage malgré les alertes. Voilà, donc c'est pour le contexte. Et alors, vous concernant, quelle est l'histoire de cette pièce ?
La pièce, le texte lui-même ? Ou mon rapport à ce texte ?
Voilà, votre rapport avec ce texte.
Ah, parce que sinon, le texte, l'histoire du texte lui-même est assez intéressante. En fait, Jean Genet, qui était très très vieux à l'époque, très malade, il avait un cancer de la gorge, qui était soigné au cobalt, enfin, par des méthodes très douloureuses, Laila Shahid, qui était à l'époque, qui n'était pas encore déléguée d'autorité palestinienne, puisqu'elle n'existait pas, l'autorité, mais était auprès de sa mère à Beyrouth pendant le siège de Beyrouth-Ouest, qui a duré des mois et qui a fait un nombre de morts incroyable en proportion par rapport à toute la durée de la guerre du Liban, qui est 15 ans. Le siège de Beyrouth a été excessivement meurtrier. Et en fait, Laila Shahid a appelé Jean Genet à venir témoigner de ce carnage sur des civils, de son bombardement massif. Et en fait, il se trouvait à Beyrouth au moment des massacres de Châtillat pour cette raison-là, parce qu'il devait écrire sur ça. Il se trouve que Genet est l'un des premiers occidentaux à avoir pénétré dans les camps immédiatement après le massacre, avant que l'armée libanaise vienne nettoyer avec les bulldozers, creuser les fosses communes, même s'il y a des fosses communes qui ont déjà été creusées pendant le massacre par les phalangistes. En fait, Jean Genet n'a pas écrit depuis les paravents. Mmh. Et c'est une renaissance à l'écriture. Ce qui est absolument bouleversant, c'est que son écriture n'est pas reconnaissable à travers ce texte par rapport à toute son œuvre passée. Tous les masques ont disparu. Il est sous le choc. C'est une écriture sous le choc. Pour moi, c'est une sorte de poème de reportage, mais qui ne confisque pas l'événement. En fait, tous les masques auxquels il avait recours dans son écriture dramatique ou romanesque sont tombés. Et on retrouve simplement un homme qui est au bord de s'abdiquer lui-même face à une chose indicible, indescriptible, qui sont des centaines de corps dans des ruelles, qui sont exclusivement, par rapport à l'introduction que vous avez faite, qui sont exclusivement des civils. Il n'y avait pas de combattants dans les camps. Les combattants étaient partis fin août.
D'accord.
Pour le Yémen ou la Tunisie. Il n'y avait aucun combattant. C'est une fiction clairement de propagande, que ce soit du parti Kataïb, chrétien libanais ou des Israéliens, de dire qu'il y avait des terroristes dans les camps. À ce moment-là, il n'y en avait aucun. Il n'y a aucun tir qui est venu des camps.
D'accord.
Donc c'est un massacre de civils.
Pour
simplement vider Beyrouth de la présence palestinienne. Et c'était un but affiché de Béchir Gemayel avant sa mort.
Ouais.
Et c'était exactement le programme de Begin et de Sharon avant même la décision d'investir le Liban.
D'accord.
Ils avaient juré leur grand Dieu qu'ils n'iraient pas au-delà d'une bande de 40 km au-dessus de la frontière nord-israélienne. Or, il était prévu dans leur tête, à ces deux-là, pas forcément le cabinet israélien dans son ensemble, mais Begin et Sharon s'étaient mis absolument d'accord. Il y a eu des rencontres entre Gemayel, Begin et Sharon précédemment, puisque Gemayel, en fait, a été élu président du Liban grâce à la pression israélienne. Et en échange d'un traité de paix qu'il leur avait promis et qu'il n'a pas tenu. C'est pour ça que la mort de Gemayel est très étrange. À travers, quand je dis ça, j'accuse personne.
D'accord.
Simplement, elle arrange tout le monde.
D'accord, c'est troublant, quoi.
Oui.
Ouais. Et alors, vous, votre rapport à cette pièce, cette œuvre de ouais. Genet, vous l'avez lu, ça vous a
Mais avant,
inspiré
avant le texte, en ouais. fait, j'avais 13 ans quand c'est arrivé. Mmh. Je appartiens à la génération de jeunes Français qui ont été complètement sous influence de ce conflit quotidiennement. On vivait avec la guerre du Liban, on se couchait avec la guerre du Liban, qui était dans tous nos médias, que ce soit les journaux, la télévision, partout. Beyrouth était un mot qui me faisait autant peur et cauchemarder que fantasmer. En fait, c'est l'histoire de deux images. La première image, c'est en fait le départ en fête des combattants palestiniens en grappe sur des camions avec des jets de fleurs, de riz, des chants des femmes, puisqu'ils laissaient leur famille. Tous les combattants sont partis en abandonnant leurs femmes et leurs enfants. Et ils tiraient en l'air, ils avaient des uniformes clinquants, alors qu'ils venaient de subir deux mois de siège. Et je pensais que c'était... J'avais inversé les termes de la défaite. Souvent dans le monde arabe, quand on perd, on maquille ça en victoire. Et je croyais que c'était un triomphe romain. Et trois semaines plus tard, dans le même lieu, une autre image... des cheveux blonds, trop blonds, avec un visage d'un enfant. Je croyais que c'était une poupée, très rond, presque plastifié, et au milieu des gravats. Et en fait, c'était le cadavre d'un enfant qui avait gonflé au soleil. Et l'écart entre ces deux images dans le même endroit du monde, à trois semaines d'écart, a dû travailler terriblement. J'arrivais pas à réconcilier ces deux images là et beaucoup plus tard je suis tombé sur le texte de Genet, que j'ai trouvé admirable, parce que justement, pour une fois, un écrivain ou un poète ne confisquait pas un événement pour en parler. C'était l'événement qui accouchait de son œuvre. Et donc je l'ai monté une première fois en 98, grâce à Agnès B, qui m'a donné de l'argent à cette époque là uniquement elle, et avec Evelyne Istria, cette immense comédienne qui était l'électre d'Antoine Vitez. Et on l'a fait en français, j'étais sur le plateau, on était deux, etc. Et j'étais trop jeune, on l'a fait à Amman, à Jérusalem-Est, peut-être Al-Kassaba, et à Beyrouth, théâtre de Beyrouth.
En Jordanie aussi, oui.
Oui, à Amman en Jordanie aussi. Amman, oui. Et j'étais trop jeune, j'avais l'énergie de le faire pour le faire, mais théâtralement, j'étais pas satisfait, je m'étais juré que je le ferais bien un jour, enfin que je tenterais de le faire bien un jour, et je tenais absolument à ce que ce soit une comédienne libanaise. Et, c'est-à-dire travailler avec ses secrets, qu'on les voit sur le plateau, même si elle n'en fait pas état. Or, Carole Aboud a traversé la guerre. Il se trouve qu'elle vit toujours dans le quartier Achrafieh, qui est le quartier chrétien. Elle est moitié chrétienne et moitié palestinienne.
Ouais.
Et ses parents, lorsqu'ils se sont mariés pendant la guerre, c'était déjà, encore aujourd'hui, c'est un tabou, mais à l'époque, c'était impensable.
Bah oui.
Voilà, et j'étais très heureux de le faire, de le créer l'hiver dernier au théâtre de Beyrouth. En plus, le théâtre fait face au QG des phalangistes chrétiens.
Ah oui.
Donc, voilà, il y a eu
un peu
des pressions.
Oui, il est un peu risqué. Alors, effectivement, vous avez défloré un certain nombre de questions que j'avais préparées.
Je suis désolé.
Ce n'est pas un souci. On va en passer.
Je n'ai pas pensé au montage.
Du tout. Pensez-vous que l'on puisse donner une dimension poétique devant l'horreur d'un tel massacre ?
Oui, à partir du moment où la poésie dit la vérité de ce que c'est que ce massacre. À partir du moment où elle ne le saisit pas, encore une fois, comme un prétexte à littérature. Après, ce qui est beau, c'est que...
C'est pas un peu antinomique, quand même, poésie et massacre ?
Non, parce que si c'est... Ici, il s'agit de la résistance d'une femme qui erre au milieu du néant. Et ce qui est poétique pour moi, c'est sa capacité de résistance face à une chose qui devrait l'engloutir. Et c'est ça que je trouve magnifique.
D'accord. Et poétique.
Oui.
Alors, lors des représentations que vous avez faites... au Liban, en Jordanie, à Jérusalem, quels ont été les accueils qui ont été faits à cette pièce ?
Ben, c'était très, très, très différent. Après, moi, le 98, c'est loin. Non, je me souviens d'un accueil très beau. Après, celui qui est le plus précis dans ma mémoire, c'est celui-là, l'hiver dernier, au théâtre Mono à Beyrouth. J'avais insisté beaucoup pour qu'il y ait des débats après, pour que les gens puissent se parler. Je pensais que ce serait compliqué, que ce serait très difficile, qu'il y aurait peut-être des prises de position extrêmement violentes. Et en fait, j'étais très surpris et très heureux de voir que les gens se parlaient alors qu'ils venaient absolument pas du même bord ou du même quartier ou n'étaient pas forcément de la même confession ou famille. Et ça se parlait. Après, il y en a une personne qui m'a dit, qui m'en voulait, que ce soit par le biais d'un Français qu'on se parle un peu. Après, ce qui est terrible au Liban, c'est qu'il y a un gel complètement de l'histoire. Les manuels d'histoire s'arrêtent en 1943, au moment de la fin du mandat français. Et on parle très peu de ce qui s'est passé parce que voilà, tout le monde a ses drames, tout le monde a eu ses massacres et ses blessures, et dès qu'on parle d'un seul, on blesse un autre, quoi. Mais non, non, moi j'étais très surpris de l'accueil, j'ai été très surpris qu'il y ait autant de monde au spectacle et de l'écoute qui était absolument magnifique. Ça a dépassé mes espoirs, vraiment, ce qui s'est passé l'hiver dernier.
Alors, vous avez pris beaucoup de risques sur cette pièce. Pensez-vous qu'elle est un prolongement nécessaire face au possible oubli de cette tragédie?
Ben, alors des risques, je pense que c'est plus mes camarades qui vivent à Beyrouth tous les jours qui en prennent. Moi, j'ai juste fait un peu de théâtre. Après, si on a fait.
Oui, mais
Si,
ce n'est pas
oui.
neutre.
Non, du tout. Non, 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 non.
Donc,
Non, non, bien sûr que non. Après, bon, voilà, c'est pas de l'héroïsme non plus. Mais ce pourquoi j'ai voulu absolument monter ce texte, qui n'est pas une pièce d'ailleurs, c'est un témoignage, c'est parce que il n'y a pas eu de justice pour ces gens, et ils n'ont même pas eu de tombeau. Et pour moi, ce texte, c'est leur tombeau. Voilà. S'il y a qu'un tombeau pour eux et que c'est ce texte-là, c'est déjà quelque chose. Mais c'est des morts laissés à l'abandon, il le dit dans le texte. C'est des morts sans mémoire, parce qu'elle n'est pas entretenue, parce qu'elle est interdite aussi parfois. C'est une mémoire dont on préfère se passer, et dont certains qui voudraient l'honorer ne peuvent pas le faire. Donc si ça peut être réalisé grâce à un texte d'un aussi grand poète que Genet, en plus ce que je trouve magnifique, c'est qu'on sent qu'il y a une mesure testamentaire. Il l'a dit, j'aurais pu m'abdiquer comme homme au milieu de tout ça. J'ai failli me coucher au milieu d'eux. Et on a cette figure à un moment dans le spectacle où elle s'endort et elle pourrait ne plus se relever par choix.
Alors vous avez souhaité exprimer la parole de la souffrance à travers une femme dont on ne sait rien et qui a vécu des choses atroces. Pourquoi avoir choisi ce moyen théâtral pour représenter l'indicible?
Une femme?
Oui, une femme seule,
En fait,
dont on ne sait rien.
j'avais fait une rencontre à Beyrouth la première fois, 98, dans les camps, la première fois que j'y suis allé. C'est une femme qui avait absolument tout perdu, beaucoup de gens de sa famille, et qui nous avait toisés assez virilement pour savoir ce qu'on venait foutre ici. Et nous avait montré des reportages que les habitants du camp avaient filmés eux-mêmes à l'époque. Et m'avait dit, bah, très bien, je vais venir voir ce que vous faites avec cette histoire. Elle était venue au théâtre de Beyrouth, et on était en train de se préparer dans les loges avec Evelyne Istria, et le directeur Elias Rouli est venu me chercher, il dit, écoute, viens. Il y a un bordel sans nom dans le hall, et c'est une femme qui est là et qui fout le bordel, et elle dit ton nom. Je suis venu, et elle avait comme ça une clope au bec, la main contre la hanche, et elle disait, ouais, ce théâtre m'appartient, puisque c'est ici qu'on raconte mon histoire. Et ça m'avait frappé. Elle nous avait invités après le spectacle, elle était venue me voir, elle dit, bon, ça va, elle m'avait toisé, pareil, encore de très près, mais. Comme pour me défier, il dit, ça va, t'as pas déconné. Mais ce soir, tu viens au camp et tu dînes chez nous. On était venus et on avait passé une nuit incroyable. Et je pense que cette femme m'a beaucoup marqué. Et les femmes dans la société palestinienne ont un rôle qui n'est pas celui qu'on imagine dans toutes les sociétés arabes. Et sociétés arabes, il y en a des très diverses. Donc on a vite fait catégoriser ici. Mais les femmes palestiniennes jouent un très très grand rôle depuis le début, depuis 1948, dans les familles, dans la société elle-même et dans l'histoire palestinienne. Et voilà, je trouvais bien que ce soit. Que ce soit un représentant de ces femmes-là, plutôt qu'un vieillard français qui figurerait vaguement le poète, quoi.
Ah ouais.
Voilà.
Pensez-vous que 30 ans après, l'écriture de cette œuvre recèle toujours le même impact et la même force?
Ouais. Oui, parce que c'est une écriture qui n'est juste que l'os. C'est en cela que je l'admire. Il y a aucun gras littéraire autour de ça. Pour moi, c'est un des textes les plus. Il est sorti comme Athéna de la tête, tout armé de la tête de son créateur, quoi. En plus, on m'a dit, mais enfin, ça n'est le texte que d'un contexte, que de 1982. Non, pour moi, c'est un des plus beaux tombeaux littéraires jamais écrits. Voilà, au même titre que des textes antiques, je sais pas, ou des grandes tragédies. Sauf que là, c'est un reportage qui n'utilise pas visiblement les moyens de la littérature ou du poème, mais qui en atteint les buts. Et en cela, je trouve qu'il est admirable.
Alors, je ne sais pas comment présenter cette question, mais 30 ans après, est-ce que vous pensez finalement à une espèce d'apaisement vous concernant à travers cette pièce finalement?
Ah, si je cherche moi un apaisement à travers ça?
Non. Est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'il s'est produit? Est-ce que cette pièce est un aboutissement pour vous
Non, il n'y a rien d'abouti parce qu'il n'y a eu ni justice ni tombeau. J'essaie juste de pas laisser ça en dépôt. C'est juste pour ça que je le fais. Si dans 10 ans, il faut que je le refasse, je le referai. Voilà, il n'y a rien d'apaisé. La situation, des réfugiés est la même. Exactement la même, ils ont droit à rien, ils sont apatrides, ils n'ont pas de papier, ils sont considérés comme rien, ils n'ont pas accès au travail, et surtout ils n'ont pas accès à l'espoir, parce qu'en plus la question des réfugiés est exclue des négociations israélo-palestiniennes. Il est exclu qu'on en parle, c'est le préalable. Donc ils se sentent abandonnés deux fois, et par leurs représentants, et par le monde entier. Et puis ces morts-là, au fil des ans, je sais pas, j'ai établi une sorte de lien. De relations, en tout cas, très affectueuses, je dirais pas familiales, mais presque. Et voilà, comme je vous disais, s'il faut le remonter dans 5 ou 10 ans, je le referai.
Maintenant, parlons de la
Ouais.
comédienne. Comment s'est fait la rencontre avec Carole Abou?
En fait, Carole Aboud, on a fait des auditions. C'est Paul Matard qui a eu l'idée de faire des auditions. Au théâtre de Beyrouth. Je suis venu une première fois quelques mois avant décembre, je sais pas, ça devait être octobre, je crois, octobre ou novembre. Et puis Paul, qui connaît beaucoup d'actrices à Beyrouth, en a sélectionné quelques-unes à me présenter. Et ça a été très vite, le choix était très simple, parce que voilà, parce qu'elle a amené dans la lecture qu'on a faite immédiatement une présence, une force et une capacité de résistance qui est une des choses qu'on travaille beaucoup dans ce spectacle. Immédiate et puis une vérité. Si ça n'est que du théâtre, alors ça sert vraiment à rien, ce serait obscène, quoi. On ne peut pas se permettre.
Non.
Vraiment pas. Y compris dans le moindre choix, le choix d'un mouvement. Le choix d'un mouvement, c'est comme quand Godard dit un travelling, c'est une affaire de morale. Bah là, le moindre mouvement est pratiquement une affaire de morale. Parce que si on déborde, si on est gratuit ou si on est complaisant, ne serait-ce qu'un début de complaisance, et ben on a perdu. Et on est dénoncé par ce que ça raconte. Et Carole était à la hauteur de tout ça. Donc voilà, ça a été très simple.
Alors, qu'a-t-elle apporté à la pièce?
Non, bah tout.
Tout.
Tout, parce que si on n'a pas l'interprète, avec
Non,
ça, il y
mais
a.
bien sûr,
Ouais.
mais sa personnalité, qu'a-t-elle apporté à la pièce, hormis authenticité, sa sincérité, sa force morale, hein, dont vous
Ouais.
parlez.
Ouais.
Y a-t-il quelque chose
Ah bah
d'autre?
oui, je peux vous répondre très facilement. Elle a apporté ses secrets dont on parlait tout à l'heure, des choses qu'elle ne me dira pas, je lui demande pas de me les dire, mais on les voit sur le plateau,
D'accord,
on les
ouais.
discerne.
C'est...
Les secrets d'une femme qui a traversé ça, qui a traversé des choses comme
Oui, ça,
ça,
et ça, c'est énorme.
et qui a vu des choses comme ça, et voilà, on n'a pas besoin forcément de s'étendre là-dessus, mais sa présence vibre de ça. Et c'est pour ça que c'est bien que ce soit une actrice libanaise et une actrice qui est. Voilà, qui grandit au milieu de tout ça et qui puisse en parler avec une autorité naturelle, sans que. Parce que sinon, il s'agirait quoi, de distribuer une actrice. Mais c'est bien au-delà de ça,
Hein.
ce qui est nécessaire là.
Donc voilà, pour conclure, voilà, je voulais vous poser des questions sur vos projets.
Ouais.
Bon, alors là, voilà,
C'est plus
donc
trivial.
oui, là, on revient malheureusement un petit peu sur terre, mais voilà, je dois te poser cette question. Donc, à partir du 17, donc au théâtre Paul-Éluard, donc c'est 4 heures à Châtillerault.
Ouais, et le 24 janvier à Conflans-Sainte-Honorine, au théâtre Simone Signoret aussi.
D'accord. Et puis l'actualité Caligula.
Ouais, Caligula est en reprise pour le centenaire de la naissance de Camus. Il sera diffusé sur France 2 au printemps et capté au théâtre des Célestins en février. Nous serons à Issoudun et à Meaux le 28 et le 31 janvier, donc
D'accord.
très vite. Je prépare Wojciech avec Bruno Pozzulu à nouveau. On ne
Ah,
se lâche pas. Et il n'y a pas
tant
de
mieux,
raison.
tant
Ouais,
mieux.
ouais, ouais, ouais. Et puis, on essaie de monter Bérénice avec Rachida Brakni.
Formidable.
Voilà, et Richard Zammel, qui est un acteur allemand magnifique.
On l'a vu d'ailleurs dans Sonate d'automne,
Ouais,
fabuleuse.
j'y étais la semaine dernière.
Ah
Ouais,
oui.
ouais. Donc voilà, et puis je reprendrai la saison prochaine mon rôle dans Tennessee Williams dans La chatte sur un toit brûlant, mis en scène par Claudia Stavisky, avec plaisir, parce qu'on a passé 7 mois là, magnifique,
Ah bah
avec
super.
Christiane Coendi, Alain Pralon. Voilà.
On va venir, on va vous suivre.
Voilà.
Merci beaucoup.
Ben merci beaucoup à vous.